Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce début d'année, l'occasion d'ailleurs pour moi de vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année 2015. Dans une demi-heure, comme chaque jour, vous avez la parole à l'occasion de la reprise du procès de Simone Gbagbo et de ses 81 co-accusés devant la cour d'assises d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de ce procès? Est-ce que la justice ivoirienne peut travailler en toute sérénité? Ce procès de l'ancienne première dame est-il de nature à favoriser la réconciliation en Côte d'Ivoire ou au contraire de nature à attiser les tensions? Assiste-t-on, selon vous, à une démonstration de justice des vainqueurs? Fallait-il ou non transférer Simone Gbagbo à la CPI, comme l'ont été Laurent Gbagbo ou Charles Blégoudé? Dites-nous ce que vous en pensez, livrez-nous votre analyse, nous ouvrons le débat dans 30 minutes. Mais le standard est déjà ouvert, vous connaissez le numéro, 33 9 693 693 6210. Sans oublier l'adresse mail, appel au appel@actu.rfi.fr et les réseaux sociaux. Mais d'abord, comme chaque jour, c'est l'heure de vos questions à la rédaction. Vous connaissez le principe, il vous manque des clés pour comprendre un fait d'actualité traité à l'antenne. Les journalistes d'RFI, nos spécialistes sont là pour vous répondre. Et Christine Muraté nous a déjà rejoint dans ce studio. Bonjour Christine.
Bonjour Pierre.
Et nous partons tout de suite au standard où nous attend Yacouba. Bonjour Yacouba.
Bonjour Pierre et bonne année à tous les auditeurs de RFI de Boara.
Bonne année à vous également. Alors vous, Yacouba, vous avez deux questions sur le Mali et la recrudescence des accrochages au Nord Mali ces derniers temps.
Effectivement, j'ai appris la semaine dernière sur les zones de RFI que les groupes armés se sont affrontés dans le nord du Mali. J'avais des questions. Quels sont les groupes armés qui se sont affrontés? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et quelles relations y a-t-il entre le groupe réclamant pro-gouvernemental et les autorités de Bamako?
Alors c'est vrai Christine qu'on a assisté hein, depuis la fin décembre à une recrudescence d'accrochage entre groupes armés et même d'attaques de groupes armés au Nord Mali, affrontements, accrochages, attaques depuis la fin décembre qui ont opposé des groupes armés originaires eux-mêmes du Nord. Alors qui sont-ils ces groupes armés? Qu'est-ce qu'on sait d'eux?
Alors déjà il faut rappeler que ces derniers jours les accrochages, on avait parlé de Bamba, de Zaro, mais aussi de Ber, plus à l'ouest, dans la région de Tombouctou. Sur le terrain, il faut voir que les combats apparemment ont cessé, mais Pierre, il faut préciser que politiquement, la situation reste toujours très tendue. Alors, vous dites, quel groupe? Eh bien, finalement, ces affrontements, c'est entre, d'un côté, la coordination des mouvements de l'Azawad, composée du MNLA, du MAA, le mouvement arabe de l'Azawad, et du HCUA. Il faut préciser que dans ce secteur du fleuve, c'est surtout les Arabes du MAA et les Touaregs du MNLA qui étaient concernés. On a très peu parlé du HCEA. De l'autre côté, il y a les groupes de la plateforme du 14 juin qui regroupent des mouvements armés loyalistes vis-à-vis de Bamako. On y trouve une autre branche du MAA loyaliste vis-à-vis de Bamako, majoritairement originaire du TLMC, des milices Imrad, des groupes de sédentaires issus des Ganda Iso et des Ganda Koï, et puis d'autres groupuscules Touaregs.
Alors, quels sont leurs revendication, nous demandait Yacouba.
Alors, il faut en fait surtout parler de la nature de ces accrochages, parce qu'on n'est pas dans des accrochages classiques où les revendications seraient portées en étendard. Ici, très clairement, sans rentrer dans le détail sur les affrontements eux-mêmes, chacun ayant sa version des faits, à Bamba, Zaro ou à Ber, on est surtout dans un rapport de force politique, mais aussi territorial. Alors, je m'explique. Rapport de force politique, il ne faut pas oublier que ces accrochages ont lieu au moment, en fait, d'une pause des accords de paix d'Alger entre les groupes armés du Nord et les autorités de Bamako et ses alliés. On va rentrer dans le cinquième round de ces accords d'Alger, de ces négociations et de ces discussions d'Alger. Les discussions étaient censées même reprendre dans quelques jours, le 15 janvier. En fait, ça semble patiner sérieusement. On parle déjà d'un report de quelques jours, voire de quelques semaines. Donc sur le terrain, on retrouve les groupes pro-fédéralistes, MNLA, MAA, et de l'autre, des groupes qui refusent cet agenda des groupes du Nord et qui soutiennent la position de Bamako à Alger. Donc ces affrontements ont clairement pour fonction de montrer la puissance et les moyens militaires des uns et des autres. Une pression finalement qui est assez classique et qui a d'ailleurs déjà déjà commencé cet été dans le Gourma, de l'autre côté du fleuve, sur la rive sud du fleuve Niger. Il y a, Pierre, il y a aussi un rapport de force territoriale et économique dans ces affrontements. Bamba, Ber, ce sont des zones de marché de bétail important sur la zone du fleuve Niger. Le MNLA et ses alliés arabes du MA contrôlent Ber. Bamba étant contrôlé, lui, par des communautés sédentaires proches des groupes armés loyalistes. En fait, l'enjeu, il est très grand, car en l'absence de l'État malien dans cette zone au nord du fleuve, ce sont les groupes armés qui ont pris le contrôle des marchés hebdomadaires et qui enregistrent le paiement des taxes. Un conseiller malien en élevage me disait hier que chaque semaine, ce sont des sommes énormes qui peuvent atteindre 2 ou 3 millions de francs CFA qui sont collectés par les groupes. Et le contrôle de ces marchés donc devient un enjeu majeur sur le plan financier. Alors chacun a accusé l'autre d'avoir pris l'initiative de l'agression. Une chose est certaine, aujourd'hui c'est la MINUSMA qui a repris le contrôle de ces bourgs avec des patrouilles de casques bleus qui ont été installées le temps que la tension retombe.
Alors l'autre question que nous posait Yacouba portait sur la nature des relations entre ce groupe qu'on dit pro-gouvernemental avec les autorités de Bamako. Comment des groupes rebelles peuvent être qualifiés de pro-gouvernementaux?
Alors bon, déjà, on parle pas de groupes. Ces groupes pro-gouvernementaux ne sont pas qualifiés de groupes rebelles. Souvent, on parle pour eux de milices pro-Bamako. Donc voilà, ça c'est déjà en termes sémantiques, c'est une chose.
Clarifié.
Bon, de tout temps, les pouvoirs maliens, mais les pouvoirs africains en général, ont fait appel à des groupes armés, que l'on appelle donc souvent des milices. Ces groupes sont conduits par des chefs loyalistes et qui occupent finalement le terrain là où l'armée régulière a du mal à intervenir. Et c'est une chose qu'on a beaucoup vue sous le président ATT. On se souvient des milices des colonels Oulmeidou et El Hadj Gamou, colonels qui ont été d'ailleurs nommés par la suite généraux. Le président ATT s'était appuyé sur ces milices arabes et imrades pour s'opposer à la rébellion de 2006. El Hadj Gamou a par ailleurs pris la tête ensuite des forces régulières pour combattre les djihadistes en 2012. On l'a retrouvé également en mai dernier à Kidal. Alors aujourd'hui, on retrouve dans le Gatia et dans le MA loyaliste les mêmes groupes armés qui s'opposent aux groupes rebelles. Alors c'est vrai que le MNLA justement accuse l'armée malienne d'être derrière ces milices et de préparer une guerre civile. Et Bamako, concernant ces groupes, condamne officiellement toutes les violences et appelle au cessez-le-feu.
Merci Christine. Restez avec nous, puisqu'on a au standard Cheikh qui a également une question pour vous. Cheikh, bonjour.
Cheikh,
vous êtes là?
Oui, je vous écoute.
Vous êtes en direct, on écoute. Vous avez une question, je crois, pour Christine Muraté.
Oui, moi aussi, ma question va vers, c'est quoi sur le cas de Bamba, quoi.
Allez-y, on vous écoute.
Pourquoi faire recours à des milices armées alors que, d'après ce Barkhane, Kama et la MINUSMA sont censés assurer la sécurité du Nord.
C'est vrai que Cheikh fait allusion à cette attaque de Bamba fin décembre, le 26, je crois, où ces milices avaient pris le contrôle, dès le 23, pardon, avaient pris le contrôle de cette localité de Bamba. Pourquoi la sécurité est-elle confiée à ces milices, entre guillemets?
Alors, confiée, c'est peut-être pas le terme. En fait, depuis le début, c'est un état de fait. Depuis le début de la crise en 2012 et le repli vers le sud de l'armée malienne et de la force publique du Mali, en général, la sécurité est souvent assurée au-delà du fleuve Niger par différents groupes armés qui ont pris possession de fait de certaines régions. À la suite des événements de Kidal, souvenez-vous, en mai dernier, où l'armée malienne a été défaite, les deux parties, c'est-à-dire donc les groupes armés du Nord fédéralistes et de l'autre côté le pouvoir malien, ont signé un nouvel accord de cessez-le-feu pour éviter l'embrasement total. Sous l'égide de la MINUSMA, il existe un comité technique mixte de la sécurité qui est composé de représentants de toutes les parties. Et ce comité se réunit théoriquement chaque mois pour refaire le point sur ce cessez-le-feu qui reste très fragile. Alors, par exemple, le 15 janvier prochain doit se tenir une nouvelle nouvelle réunion à Gao de ce comité technique mixte qui va se pencher sur le cas de Bamba, de Zaro et de Ber. Donc on voit bien que le positionnement des groupes pro-Bamako sur Bamba résulte d'un vide et c'est finalement au premier qui s'installe, qui contrôle la zone.
Et sur la question de savoir ce que font les Français de Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA.
Alors, les militaires français de Barkhane ne sont plus au Mali officiellement pour assurer la sécurité des populations. Sa mission, c'est la chasse aux djihadistes dans le nord et surtout dans toute la sous-région du Sahel. La MINUSMA, quant à elle, dispose de 8300 soldats. Donc avec ce contingent, elle ne peut pas être partout. Elle a des postes permanents dans les grandes capitales du nord, Tombouctou, Gao, Kidal, mais aussi dans des localités dites pivots, mais elle n'était pas ni à Bamba ni à Ber. Alors elle a envoyé dans un premier temps un hélicoptère de reconnaissance des affrontements, puis a envoyé l'infanterie. Cela n'a pas empêché les combats d'avoir lieu. Désormais, pourtant, ce sont des casques bleus qui sont déployés sur place pour stabiliser la situation. Et la MINUSMA a décidé d'ailleurs de jouer les intermédiaires entre les combattants pour apaiser les esprits, pour éviter que les combats ne reprennent, en attendant la réunion de Gao le 15 janvier et en attendant aussi la reprise des négociations à Alger d'ici quelques jours, d'ici peu, peut-être d'ici la fin du mois.
On verra. Merci Christine Muraté du service Afrique d'RFI. Merci à Cheikh et à Yacouba également. 33 9 693 693 70. Nous repassons au standard pour évoquer maintenant un tout autre fait d'actualité, la disparition du vol Air Asia. Moussa est en ligne avec nous. Bonjour Moussa.
Oui, bonjour Pierre, bonjour à toute la juridiction des RFI à Kalenko et partout dans le monde.
Alors vous avez des questions sur justement la disparition de ce vol d'Air Asia, cet Airbus. Et pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Jean Serra. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour et déjà bonne année à tous ceux qui nous écoutent.
Merci, bonne année également à vous. Vous êtes ancien commandant de bord et Moussa, on écoute votre question.
Oui, merci Pierre. Alors, après la disparition du Malaysia Airlines en mars dernier, c'est l'Airbus A320 de la compagnie Air Asia qui a disparu le 28 décembre dernier, avant d'être retrouvé quelques jours plus tard dans la mer de Java. Alors Pierre, je voudrais savoir, comment un avion peut disparaître sur les écrans radar? La première question. Et la dernière question, quel est le rôle exact de la tour de contrôle?
Alors, c'est vrai que donc c'était le 28 décembre, si je ne m'abuse, cet Airbus d'Air Asia disparaissait entre l'Indonésie et Singapour avec 162 passagers à bord. On a retrouvé des débris de l'avion dans la mer de Java. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment expliquer cet accident. Il semblerait que le mauvais temps ait pu jouer un rôle. En tout cas, les contrôleurs du ciel, la tour de contrôle, avaient perdu le contact avec l'appareil environ une heure après le décollage. Jean Serra, qu'est-ce que ça signifie quand un avion disparaît comme ça des écrans radar?
Alors, déjà, pour que Moussa comprenne bien ce qui se passe, on a des contrôleurs aériens. Le contrôleur aérien, c'est celui qui va vous donner l'autorisation de partir de tel point, par exemple Paris, pour aller à tel point, par exemple Marseille. Il sait exactement que vous avez la route que vous avez déposée, il sait où vous allez passer, il connaît toute la route de l'avion, il connaît les heures, et c'est lui qui va vous dire, il n'y a pas de problème sur cette route, je vous donne l'autorisation de mise en route, je vous donne l'autorisation de rouler, et je vous donne l'autorisation de décoller. Et puis ensuite, il va vous suivre. Alors bien sûr, comme on change le pays, vous allez passer un coup avec le contrôleur, par exemple, français, qui va vous transférer après au contrôleur, si vous allez en Méditerranée, italien. Vous êtes suivi tout le long de votre route, et tous les contrôleurs connaissent absolument par cœur la route que vous avez déjà déposée. Maintenant, ce qui reste extrêmement important de comprendre, c'est que pour que le contrôleur puisse vous suivre, vous avez à bord de l'avion ce qu'on appelle un transpondeur. C'est un petit boîtier qui émet des messages vers l'écran radar du contrôleur. Et tant que ce boîtier est sur marche, le bip qui va partir de ce boîtier va arriver sur l'écran radar du contrôleur, et là, le radar du contrôleur, sur son écran, il va voir une petite étiquette marquée, je sais pas, Malaysian 370 ou enfin n'importe quoi. Il va voir ça avec l'altitude où vous êtes. Et il vous suit comme ça en permanence. Si bien que vous n'avez pas besoin de lui parler, il vous suit en permanence.
Donc quand ça, l'avion disparaît de l'écran radar, ça veut dire que le transpondeur n'émet plus ?
Soit que le transpondeur n'émet plus, soit que vous êtes trop loin d'une côte. Par exemple, lorsque vous êtes, vous, sur une plage, vous regardez la mer face à vous, vous voyez l'horizon. L'horizon, il est à peu près à 20 km. Si vous montez en haut d'un bâtiment de 20 étages, vous allez voir à 30 km. Vous voyez que plus vous êtes haut, plus vous voyez loin. Eh bien, un avion, c'est pareil. Le contrôleur, il vous voit. Tant que vous êtes en ligne droite, à portée de vue du radar, si vous avez dépassé une certaine distance, d'un seul coup, il ne vous voit plus. Il ne sait plus où vous êtes. Par exemple, dans l'accident dont nous parlons aujourd'hui, si l'avion a chuté, et il est tombé très rapidement, arrivé à une certaine altitude trop basse, plus aucun radar n'arrive à le contacter.
D'accord. Et que se passe-t-il à ce moment-là dans une tour de contrôle ? C'est la panique à bord ?
Ah ben là, dès qu'on perd le contact d'un avion, on va déclencher des alertes. La première, c'est alerte FA, c'est-à-dire phase d'alerte. On dit, ah, il y a quelque chose qui n'est pas normal. On commence à alerter tous les services de sécurité, tous les contrôles aériens qui sont autour de votre pays. Deuxième, c'est la détresse FA. C'est-à-dire la phase de détresse. On dit, là, attention, c'est pas il a disparu, c'est qu'on pense qu'il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Et là, on déclenche ensuite tout le système de sécurité pour dire, il y a un avion qui a disparu, c'est pas normal, là, il y a eu un accident. Et c'est ce qui s'est passé en Indonésie, malheureusement. Ils ont déclenché toute cette phase d'alerte et de détresse pour aller ensuite rechercher où est passé cet avion.
Alors, on a beaucoup évoqué la météo comme cause possible de cet accident, mais qu'est-ce qui permet de le dire ? Et est-ce que la météo peut être le seul facteur d'un accident ? Ou il en faut d'autres ?
Vous savez, dans un accident, malheureusement, c'est toujours une série de points qui s'additionnent, qui à la fin font qu'il y a un accident. La météo est certainement un élément essentiel de cet accident. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a la formation des pilotes. Il y a la pression que vous avez en tant que pilote commandant de bord par les compagnies aériennes, parce qu'il faut bien sûr économiser du carburant, donc surtout on n'en prend pas trop, donc on s'éloigne pas suffisamment des routes, ça rallonge le temps de vol, donc ça coûte de l'argent. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Il y a bien sûr les phénomènes météo, mais les phénomènes météo, surtout pour ceux qui sont en Afrique ou en Asie, ils savent très bien que le front intertropical, eh ben, il est là. Et quand il est là, c'est extrêmement pénalisant pour tous les avions qui volent. Moi, je rappelle toujours qu'une fois au-dessus du Kenya, il a fallu que je m'écarte de plus de 180 km de ma route initiale par la droite pour éviter une barrière de nuages.
Rapidement, Jean Serra, on a vu que l'Indonésie avait pris des mesures contre certains responsables de la navigation aérienne. Comment il faut interpréter ces mesures, ces sanctions en fait ? C'est de la com, c'est l'enquête qui suit son cours ?
Je pense qu'il y a beaucoup de communication là-dedans. Je ne suis pas très très satisfait de ce qui se passe en Malaisie et en Indonésie en ce qui concerne la communication vis-à-vis des médias. Voilà, il y a des choses qui sont un petit peu délicates et peut-être qu'on fait beaucoup d'effets d'annonce. Ce qui compte, c'est d'abord de savoir où est l'avion, les boîtes noires, exactement qu'est-ce qui s'est passé, pour ensuite en tirer les conséquences.
On suivra ça de très près. Merci Jean Serra. L'émission touche à sa fin malheureusement, mais évidemment on suivra tout ça de très près. Restez avec nous après la pause. 10 minutes, un journal Afrique et puis la suite d'Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent et paiement de facture.